en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, l'homme dont nous allons dresser le portrait dans ce nouvel habit vert a changé votre vie. Ses travaux sont à l'origine de vos dentifrices au fluor, du téflon, des vitres anti-reflets ou encore de fongicides et d'insecticides dans le domaine de l'agrochimie. Il fabriquera par ailleurs le premier diamant de synthèse donnant naissance à toutes les pierres qui existent aujourd'hui pour notre plus grand bonheur. Cet homme, il s'agit d'Henri Moisson. Henri Moisson, né en 1852 et mort en 1907, était membre de l'Académie des sciences, de l'Académie nationale de médecine et de la Société de pharmacie. Il recevra le prix Nobel de chimie en 1906 pour ses travaux sur l'isolation du fluor et qui permettra par la suite toutes les inventions que j'ai pu citer au départ, ainsi que son four à arc électrique qui permettra la véritable fabrication par la suite de pierres synthétiques. Alors à l'occasion du centenaire de son prix Nobel, l'Académie de pharmacie nous ouvre ses portes et nous propose de revenir sur l'essentiel de ses travaux autour d'une exposition temporaire dans la salle des actes. Pour nous guider sur les traces d'Henri Moisson, nous suivons Claude Santini, secrétaire général adjoint de l'Académie de pharmacie, ainsi que François Bourrier, président honoraire de l'Académie de pharmacie. Alors où sommes-nous là aujourd'hui ? C'est la salle des actes.
Nous venons d'entrer ensemble dans cette magnifique salle qui s'appelle la salle des actes de la faculté de pharmacie de Paris, avenue de l'Observatoire. C'est une salle qui est habituellement fermée au public, mais qui, à l'occasion de cette exposition, est exceptionnellement ouverte. Et vous voyez que ça vaut la peine de l'avoir ouverte parce que c'est une salle magnifique qui a été transplantée lorsque l'ancienne école supérieure de pharmacie, qui était située rue de l'Arbalète, pas très loin d'ici, a été transférée ici. On a transféré aussi tous les éléments de décoration qui figuraient là-bas, et notamment une centaine de portraits d'anciens apothicaires et pharmaciens qui décorent cette salle de façon assez somptueuse. Et vous voyez que le dernier portrait qui a été accroché dans cette salle des actes est celui d'Henri Moisson, donc le plus récent. Après, il n'y a plus de place. Toutes les places sont prises parce qu'on remonte au XVIe siècle quand même. Et vous avez ici, dans le coin, là-bas, le portrait d'Henri Moisson, à qui nous avons consacré cette exposition.
Alors voilà, donc l'occasion de réaliser cette petite émission sur Henri Moisson, dont nous fêtons le centenaire de son prix Nobel. Un prix Nobel pour quelle occasion, Claude Santini ?
Eh bien, Henri Moisson s'est vu décerner le prix Nobel de chimie en 1906... pour deux raisons. D'une part, parce qu'il a été le premier savant qui a isolé l'élément fluor et que cette performance extrêmement difficile qu'il a réussi avec des moyens modestes a ouvert la voie à tout un domaine de la chimie et que ses contemporains ont été conscients de l'importance de sa découverte et de sa difficulté. Et d'autre part, il a ouvert le chapitre de la chimie des hautes températures en inventant un four qui lui a permis de porter par le biais d'un arc électrique des substances à des très hautes températures, de 3000 à 3500 degrés, et qui lui a permis de créer des corps chimiques qui n'existaient pas jusqu'à présent, avec une perspective qui était celle de créer un diamant de synthèse. C'était son deuxième défi. Son premier défi, c'était d'isoler le fluor. Il l'a réussi en 1886. Il avait alors 34 ans. Et son deuxième défi, c'était d'arriver à synthétiser du diamant artificiel. Ça, certains considèrent qu'ils l'ont réussi, d'autres émettent des réserves. Mais en tout cas, ça a ouvert tout un chapitre nouveau de la chimie.
Alors nous allons parcourir cette petite exposition, nous allons donc nous déplacer vers le premier panneau qui là présente, on va dire, Henri Moisson avec une belle photo, un joli portrait. Donc Henri Moisson, qu'est-ce qu'on peut dire de lui pour pour commencer sur son...
Pour commencer, on peut dire que cet homme qui, comme vous voyez, a une belle prestance, est d'origine assez modeste. C'est un enfant qui est né dans une famille toute simple. Le papa Moisson était employé à la Société des chemins de fer de l'Est. La maman Moisson était couturière. Et c'était des gens très simples qui ont vécu entre Paris et Meaux. Et notamment, Henri Moisson a passé toute sa jeunesse à Meaux, en Seine-et-Marne, là où il a laissé beaucoup de souvenirs de son passage et où on honore en ce moment aussi sa mémoire. Alors, parti donc d'un milieu extrêmement modeste, avec des moyens très simples, c'est un homme qui a fait une ascension sociale extraordinaire, puisqu'il est arrivé à obtenir plus haute distinction scientifique qui avait été créée quelques années auparavant. Et cet homme que nous vénérons parce que c'est un pharmacien de formation et que les pharmaciens ont tenu à honorer ce centenaire, eh bien, il a fait un parcours tout à fait exceptionnel à force de qualité humaine, de travail, de persévérance. Et nous sommes nombreux à avoir beaucoup d'admiration pour lui. Et c'est pour ça que le doyen de cette faculté a tenu à célébrer ce centenaire.
À cette époque, quand on est d'origine modeste pour faire des études, je suppose que ça ne doit pas être évident.
Eh bien, écoutez, normalement, Henri Moisson était destiné à faire des études primaires et pas aller beaucoup plus loin. Il a commencé à être adolescent. Il a été mis apprenti chez un horloger de Meaux. Et personne ne pouvait imaginer à cette époque-là qu'il connaîtrait la carrière qu'il a connue ensuite, qui s'est faite au fil de rencontres et d'une volonté farouche de faire des choses importantes parce que c'était un homme exceptionnel.
Il fait ses études à Paris alors, à la faculté de pharmacie à Paris.
Il fait ses études d'abord à Meaux, au collège de Meaux, qui est devenu aujourd'hui le collège Henri Moisson. Et la famille est venue à Paris, fuyant l'invasion prussienne. Et il est venu en 70 participer avec son père, ou même pour son père, parce qu'il a, je crois qu'il avait remplacé son père dans l'engagement que son père aurait dû respecter.
Pour défendre la ville de Paris.
Pour défendre la ville de Paris.
Parce qu'il pensait être plus à l'abri de l'invasion prussienne en allant à Paris. Ils se sont trouvés coincés dans Paris. Enfin, le terme est un petit peu dur, mais il en a fallu qu'il se défende pour défendre la ville de Paris pendant son siège. Mais ça a été très bénéfique qu'il revienne à Paris parce qu'il a pu commencer son stage en pharmacie parce que pendant le collège, il était en admiration devant la chimie et il n'avait qu'une envie, c'était de faire de la chimie. Et il est donc, à l'époque, pour faire de la chimie, on allait volontiers faire le stagiaire en pharmacie pour préparer les études de pharmacie. Et il rentre donc à Paris chez la pharmacie Baudry, rue de Saint-Martin à Paris, comme stagiaire. Il avait 3 ans de stage à faire, 3 années de stage. Et heureusement, son maître de stage était un homme très, très ouvert, très compréhensif, qui avait vu toutes les qualités déjà de son élève, de son stagiaire. Et il l'a autorisé à suivre des cours au muséum pendant son stage. Et c'est ainsi qu'il a pu aborder la chimie expérimentale en suivant les cours de Frémy au muséum d'histoire naturelle.
Suivre des cours au Muséum d'Histoire Naturelle, dans quel domaine ?
Dans le domaine de la chimie. Frémy était un chimiste. Et au muséum, il y avait des chimistes et des naturalistes. Et Frémy, justement, travaillait sur le fluor, essayait de l'isoler, mais n'a pas réussi. Et peut-être l'idée de Moisson de retravailler sur le fluor vient de ce contact avec son maître, M. Frémy, pendant son stage en pharmacie.
Voilà. Monsieur Santini, vous vouliez rajouter quelque chose ?
Je voulais vous dire qu'il faut savoir qu'en ce qui concerne la carrière pharmaceutique de Moisson, qu'à l'époque, il y avait 2 sortes de pharmaciens. Il y avait les pharmaciens de première classe qui avaient un diplôme universitaire, qui suivaient le baccalauréat et qui pouvaient exercer n'importe où sur le territoire français. Et puis, il y avait les pharmaciens de deuxième classe. Ce diplôme était octroyé, il n'y avait pas besoin d'avoir le baccalauréat, il fallait faire 3 ans de stage dans une pharmacie et on ne pouvait par contre exercer que dans le département où on avait obtenu le diplôme. Alors Moisson a commencé par avoir un diplôme de pharmacien de deuxième classe parce qu'il n'avait pas le baccalauréat. D'où le stage bien sûr, mais surtout d'où sa volonté de passer lui-même en indépendant son baccalauréat, de manière à progresser vers ce diplôme de pharmacien de première classe qu'il convoitait et auquel il est parvenu ensuite.
Alors nous allons peut-être passer à l'autre partie. Là, nous pouvons voir quelques documents, thèse à la Faculté des sciences de Paris. Donc, c'est la thèse d'Henri Moisan.
Eh bien, écoutez, Henri Moisan a écrit plusieurs thèses. Une thèse à la Faculté des sciences de Paris, effectivement, dont le thème était les oxydes de fer. Une thèse, ensuite, à l'École supérieure de pharmacie de Paris sur la série du cyanogène en 1882. Et puis une thèse antérieure, en 1879, quand il n'avait pas encore opté pour la chimie et où il s'intéressait aussi à la physiologie végétale. Et c'est une thèse sur les volumes d'oxygène absorbé et d'acide carbonique émis dans la respiration végétale. Vous voyez que c'était un homme qui était très complet, qui s'intéressait à tous les domaines. Parti sur la physiologie végétale, il s'est ensuite orienté vers la chimie où il est devenu un maître.
On voit également les comptes rendus de l'Académie des sciences. Est-ce que déjà à cette époque, il avait déjà des relations avec l'Académie des sciences ?
Ah ben, c'est-à-dire que comme tout chercheur, l'ambition suprême, c'était de faire reconnaître les travaux de recherche qu'on menait. Et Henri Moisan a mené plusieurs travaux et par l'intermédiaire de ses maîtres, ces travaux ont pu être présentés devant l'Académie des sciences et être reconnus. Et donc, il est devenu par la suite membre de l'Académie des sciences, membre de l'Académie de médecine, membre et président de l'Académie de pharmacie. C'était un homme qui, dans le monde académique, avait une importance considérable.
Est-ce que c'est à cette époque qu'il travaille déjà sur le fluor et ses travaux sont déjà bien avancés ?
Au départ, il a travaillé tout seul, d'ailleurs, sur les oxydes de fer, hein, dans le domaine de la chimie, et c'est ce qui a été donc sa thèse de science. Mais il a très vite voulu isoler le fluor, ce problème dont il avait pensé avec son maître Frémy, et il était extrêmement habile expérimentalement. Il avait une ingéniosité pour construire des appareils, et on peut voir comment il a pu obtenir ce fluor sur lequel beaucoup d'autres maîtres avaient échoué. C'est donc la saga du fluor que nous avons voulu manifester, illustrer, et nous avons là des appareils et qui permettent d'obtenir le fluor. Mais il avait essayé à plusieurs reprises, et il y a des anecdotes assez curieuses, puisqu'il avait été accueilli à l'École normale supérieure par le professeur Debré pour travailler, et il a essayé d'isoler le fluor à l'École normale supérieure. Mais le fluor et l'acide fluorhydrique sont des produits extrêmement agressifs. Il avait causé des altérations dans tout le matériel du laboratoire. Les vitres étaient opacifiées par l'acide fluorhydrique et on lui a demandé de partir à cause de ça. Heureusement, le professeur Friedel, qui était à la Sorbonne, qui avait pu voir toutes ses qualités, l'a accueilli. Il n'a pas accueilli la Sorbonne, mais il l'a accueilli dans un petit laboratoire qui est rue Michelet, tout à côté de la faculté de pharmacie. Et c'est là qu'il a effectivement, de l'autre côté du trottoir, il a effectivement isolé le fluor dans ce laboratoire, cet annexe de la Sorbonne.
Alors quel était l'intérêt finalement de vouloir absolument isoler le fluor ? Quel était l'intérêt à cette époque ?
L'intérêt, c'est que c'était de la recherche pure. Personne n'avait jamais isolé le fluor. On connaissait les fluorures, on connaissait l'acide fluorhydrique, puisqu'il y a un minerai qui est la fluorine, du fluor de calcium, que l'on trouve dans la nature et qui est la source d'ailleurs de tout ce qu'on peut produire comme fluor depuis qu'on l'a découvert. Alors l'intérêt, c'était de savoir ce qu'était cet élément fluor que personne n'avait pu isoler. Quand on isole du fer, du cobalt, des métaux, on peut les tâter, les toucher, on isole le fer à l'état pur. Et personne n'avait réussi, en raison de son agressivité chimique, personne n'avait réussi à l'isoler. Et c'est donc là qu'il a manifesté toute son ingéniosité. Il a fallu qu'il se batte avec des problèmes à l'époque quasi insolubles. Il fallait qu'il opère à basse température, à moins 20, moins 30, puisque l'acide fluorhydrique à partir duquel il partait, comme principe actif de ses expériences, est gazeux à la température ordinaire. Il a fallu donc réfrigérer avec du chlore de méthyle qui, en s'évaporant, refroidissait à moins 20, moins 30. Et alors, beaucoup, beaucoup de personnes qui avaient essayé de l'isoler n'avaient pas préparé de l'acide fluorhydrique anhydre. Et ça, c'est le secret aussi de Moisan, d'avoir purifié complètement son acide fluorhydrique, qui est la matière première de départ, qu'il n'y ait pas de moindre trace d'eau qui empêchait d'isoler le fluor. Il a donc commencé à travailler sur l'acide fluorhydrique strictement anhydre, mais pas de chance encore, le courant ne passait pas. L'acide fluorhydrique anhydre liquide à moins 30 ne conduit pas l'électricité, donc il ne pouvait pas faire l'électrolyse. Et il a une deuxième astuce, d'ajouter du fluor de potassium qui a permis d'isoler le fluor. C'est donc, vous voyez, c'est une ingéniosité extraordinaire et qui fait l'originalité. Et Frémy, qui avait essayé d'isoler le fluor, qui avait beaucoup travaillé sur cette recherche, a rendu hommage à Moisson et a reconnu que c'était Moisson qui avait découvert le fluor.
Pas découvert, mais isolé. Hein. Mais votre question est très pertinente. Quel est l'intérêt d'avoir isolé le fluor? Simplement, si vous voulez pouvoir étudier un élément, qui est un élément très important de la nature et de la classification des périodiques des éléments, il faut que vous puissiez travailler dessus. Si vous voulez travailler dessus, il faut qu'il existe. Donc personne n'avait jamais réussi à emprisonner le corps pur fluor dans un tube à essai, ni à l'état gazeux, ni à l'état liquide, ni à l'état solide. Donc il fallait que quelqu'un soit capable de l'isoler pour pouvoir commencer à l'étudier et à développer tous les travaux qui ont permis ensuite d'en trouver tous les intérêts et tous les dérivés.
Pour isoler ce fameux fluor, il a fallu des outils. Nous allons donc nous diriger vers les vitrines. D'où viennent ces objets? Ils proviennent de la famille?
Les objets appartenaient au laboratoire et c'est son élève, M. Lebeau, qui a conservé avec beaucoup de vénération tous les matériels avec lesquels Moisson a travaillé. Hein. Et alors on voit ici par exemple une série de tubes à électrolyse. Ces tubes à électrolyse, ces tubes en U, un tube qui a la forme d'un U, sont en platine parce que c'est le seul métal qui n'était pas attaqué par l'acide fluorhydrique. Et alors il est évident que ce matériel coûtait extrêmement cher.
Ce que je voulais dire, c'est quelque chose de très coûteux.
Vous avez un tube en U électrolyse, vous avez une bouteille en platine pour contenir l'acide fluorhydrique. Vous avez des tubes en U beaucoup plus gros, il y a les petites chambres, là, les chambres électrolyse avec lesquelles il a commencé à travailler, mais vous avez des beaucoup plus grandes tubes ici avec des réfrigérants et toujours cette bac électrolyse dans un récipient dans lequel il mettait du chlore de méthyle pour refroidir toujours. Il fallait toujours refroidir. Voilà.
Est-ce qu'il a fabriqué lui-même ses propres outils?
Non, il avait recours aux gens qui étaient les professionnels de la fabrication d'outils de laboratoire. Mais effectivement, l'utilisation du platine qui lui était imposée par le caractère très réactif du fluor sur tout ce qu'il touchait était un obstacle au développement parce que c'était très coûteux. Et alors, il s'est orienté par la suite sur des matériels plus simples, moins coûteux, dans lesquels le cuivre remplaçait le platine, qui est évidemment une économie considérable.
Il n'y a pas pensé avant?
C'est-à-dire qu'il pensait que ce n'était pas possible parce que le cuivre est attaqué par l'acide fluorhydrique. Mais justement, cette attaque aboutissait à former une fine couche de fluorure de cuivre qui, elle, protégeait le métal d'attaques plus profondes. Et il s'est aperçu qu'il pouvait très bien utiliser des matériels en cuivre au lieu de matériels en platine, ce qui a permis de passer à une autre échelle.
D'où cette seconde vitrine dans laquelle on peut observer du matériel en cuivre. On retrouve également un manuel.
C'est un manuel, ce qu'il a écrit. Hein, c'est un traité sur le fluor et ses composés. Et nous l'avons mis ici dans l'exposition parce qu'il est juste à côté d'un instrument qui a été imaginé par Moisson, qui est un long tube qui porte à chacune de ses extrémités une lentille en fluorine et donc qui permet de laisser passer la lumière. Et donc, quand vous regardez, par une longue vue, à l'intérieur de ce tube, vous voyez quelle est la couleur du gaz qui est à l'intérieur de ce tube. Et donc, en remplissant ce tube de fluor, il s'est aperçu que le fluor avait une belle couleur jaune-verdâtre qu'il a différenciée dans son ouvrage.
Il l'a comparé au chlore, qui, lui, est un peu jaune-verdâtre. Hein. Mais, évidemment, quand il avait le gaz dans les récipients en platine, il ne pouvait pas en voir la couleur. Alors, il a imaginé ce tube qui est un montage pour voir quelle était la couleur du gaz fluor. C'est une caractéristique du gaz fluor.
Là, nous sommes en 1886.
1886, oui, 1886. Et alors là, avec cet appareil, vous voyez qu'on peut décrire rapidement. Vous avez un piège ici qui fixe le fluor en se formant, entraîner un petit peu d'acide fluorhydrique qui lui-même est gazeux température ordinaire. Il entraînait un petit peu d'acide fluorhydrique. Il captait l'acide fluorhydrique pour purifier son gaz fluor. D'abord par de la basse température et ensuite, il avait trois absorbeurs sur lesquels était placée de la fluorine pulvérisée, et la fluorine absorbe l'acide fluorhydrique. C'est-à-dire qu'à la sortie, il n'y avait plus d'acide fluorhydrique, il avait du fluor absolument pur, qui recueillait au bout du serpentin en cuivre que l'on voit là.
Alors, 1886, Moisson a 34 ans, il est dans la force de l'âge, il est très jeune, mais il est quand même dans la force de l'âge. 1886, pour vous donner un repère historique, pour nos auditeurs, eh bien, c'est l'année où a commencé la construction de la Tour Eiffel.
La deuxième grande innovation, recherche, on va dire, d'Henri Moisson, c'est le diamant synthétique.
Il était fasciné par la production de ce diamant. Il a étudié les conditions géologiques dans les mines de diamants. Et un détail, comme il avait été spécialisé dans les oxydes métalliques, on lui a confié l'étude d'une météorite qui avait été trouvée dans l'Arizona, au Canyon Diablo. C'était une pièce qui avait été fondue et qui avait subi les hautes températures de descente dans l'atmosphère. Et il a été trouvé des diamants blancs, enfin donc des cristaux de diamants, hein, dans cette météorite. Il l'a identifié et il a pu voir et il en a déduit, si vous voulez, que pour fabriquer du diamant, il fallait qu'il y ait une haute température et une forte pression. Et c'était les conditions d'obtention du diamant artificiel. Et ses vues étaient extrêmement justes, puisqu'il en a obtenu et qu'on en produit maintenant artificiellement en se basant sur l'imagination de Moisson, de ses hautes températures d'une part, de ses hautes pressions d'autre part.
Et donc là, nous sommes dans les années 1890.
C'est ça, 1890. Et alors, il invente un four, un arc électrique. L'arc électrique était connu parce qu'on faisait des éclairages avec l'arc électrique. Mais jamais on n'avait utilisé l'arc électrique pour chauffer pour obtenir des hautes températures. Vous voyez ici, cette vitrine, nous avons mis le premier four électrique qui est un bloc de chaux dans lequel il a coupé avec un couvercle et une base. Il a créé une gouttière à la surface de la base dans laquelle sont situées deux électrodes en graphite. Et au milieu où se rencontrent les deux électrodes en graphite, il y a un petit puits dans lequel il a placé un creuset. Et ce creuset contenait du fer et du carbone. Et il a donc obtenu, avec ses premiers fours, des températures qui n'étaient pas très très élevées parce qu'il n'avait pas l'électricité. Et il fabriquait lui-même son électricité pour alimenter son four.
Alors comment il faisait pour fabriquer sa propre électricité ?
Voilà, il y avait, dans l'amphithéâtre, il y avait un éclairage avec une dynamo qui fonctionnait avec un générateur à gaz. La dynamo fournissait des petites quantités d'électricité. Et vous voyez, il avait ici, vous voyez sur le tableau, nous avons mis que sa première, à l'école de pharmacie, à l'époque, une dynamo qui fournissait 35 à 40 ampères sous 40 volts. Il ne pouvait pas obtenir beaucoup de puissance, de haute température. Et alors, au fur et à mesure, puisque c'était le développement formidable à cette époque de l'électricité, avec l'installation du premier réseau électrique à Paris, dans la centrale Truden, il a donc profité de ces générateurs beaucoup plus puissants pour alimenter de plus grands fours et obtenir surtout des températures bien plus élevées, de l'ordre de 3500 degrés. Alors vous voyez ici, par exemple, sur le panneau, il y a le four de Moisson qui est là, vous voyez, et qui est alimenté par ces grands générateurs de l'époque. Il partait avec son four sur une charrette ou je ne sais comment, mais il amenait son four à côté du générateur pour pouvoir obtenir ces hautes températures.
Et donc, à haute température, on obtient un solitaire ?
Ah, attendez, non. La haute température, ça lui a permis d'abord de créer tout un cortège de produits chimiques qui n'existaient pas avant qu'il les ait créés.
Il a inventé
de nouveaux corps chimiques qui sont des carbures, des borures, des nitrures. Par exemple, il a créé le carbure de calcium dans ce four, en utilisant la température. Le carbure de calcium, ça n'a l'air de rien, mais c'était une invention tout à fait considérable, parce que quand vous mettez de l'eau sur du carbure de calcium, ça génère de l'acétylène. Et De là est née toute une industrie et toute une économie d'utilisation de l'acétylène qui a servi de gaz d'éclairage, qui a servi comme précurseur dans tout le domaine de la chimie. Vous voyez ici, on a mis des échantillons qui datent de cette époque, fabriqués par Moissan, où vous voyez carbure de thorium, de barium, de chrome, borure de fer, de strontium, etc. etc. Donc il a créer un certain nombre de corps qui n'existaient pas. Et notamment aussi le carbure de silicium. Le carbure de silicium qui s'est avéré être un minéral d'une dureté tout à fait exceptionnelle et dont des applications plus récentes ont permis d'approcher d'un peu plus près ce fameux défi du diamant, parce que en taillant à la manière d'un diamant du carbure de silicium, on obtient une pierre qui présente des caractéristiques pas très éloignées de celles du diamant. Mais c'était pas ça l'objectif de Moissan. Alors, donc l'objectif de Moissan, les hautes températures d'une part, les hautes pressions d'autre part, parce qu'il pensait que c'était la conjugaison des hautes températures et des hautes pressions qui lui permettrait d'obtenir ce fameux diamant. La haute température, on vous a dit, c'est le four. Et la haute pression, alors les hautes pressions, il les a abordées d'une autre manière, c'est en refroidissant brutalement des matières, des mélanges contenant du carbone et du fer, chauffés à 3500 degrés et refroidis brutalement en plongeant dans l'eau, ce qui génère à l'intérieur de la masse des hautes pressions considérables et qui lui ont permis de penser, même s'il a un peu été contesté sur ce point-là, que probablement il y avait des cristaux de diamants à l'intérieur de ces fontes refroidies.
Derrière vous, il y a un document exceptionnel qu'on n'a pas l'habitude de voir, car ce n'est pas tout le monde qui reçoit un prix Nobel, c'est donc l'original.
L'original.
Alors je vais vous raconter deux mots sur la famille Moissan. Moissan a épousé Marie-Léonie Lugan, qui était la fille d'un pharmacien de Meaux, de la grande pharmacie de Meaux. Et on dit dans l'exposition qu'à partir de là, il n'a plus de problèmes matériels parce que son beau-père l'adorait et lui a créé des conditions pour qu'il puisse mener très tranquille tous ses travaux de recherche. Bon, ces gens-là sont venus ensuite s'installer à Paris. Ils ont eu un fils. Et ce fils qui s'appelait Louis Moissan, qui n'a pas été pharmacien, mais qui a été chimiste lui aussi. Et Louis Moissan, après la mort de son père, il y a eu la guerre de 14. Et comme toute la jeunesse de cette époque, il a été appelé sous les drapeaux. Il est parti à la guerre. Il est parti le 1er août 1914 à la guerre. Juste avant, à la fin du mois de juillet, il s'est dit « je vais quand même faire mon testament parce qu'on ne sait jamais ce qui pourrait m'arriver ». Il a fait son testament dans lequel il a légué une partie des affaires de son père à la ville de Meaux et l'autre partie à la faculté de pharmacie ici, qui était l'école supérieure de pharmacie.
Le matériel que l'on peut voir,
oui,
notamment
parce
ici.
Parce que ce malheureux Louis Moissan, 10 jours après le début de la guerre, il a été tué au feu.
Et parmi donc ce matériel, il y avait également
le fameux prix Nobel que Moissan avait été recevoir à Stockholm en novembre 1906 et qu'il n'a pas eu le temps de savourer vraiment parce que le malheureux est mort en mars 1907, en février même 1907, 2 mois après avoir reçu son prix Nobel d'une appendicite aiguë foudroyante.
Donc 20 ans après, après avoir isolé le fluor, il reçoit le prix Nobel, mais qui couronne les deux travaux.
L'ensemble de ses travaux de recherche, oui. D'ailleurs, c'est marqué sur le prix Nobel. Alors, ce prix Nobel, c'est un document magnifique. C'est une espèce d'écrin à l'intérieur duquel est inséré un parchemin gaufré doré avec des écritures manuscrites magnifiques et qui explique en suédois, naturellement, pourquoi Henri Moissan a été le premier français et le premier pharmacien à recevoir ce fameux prix Nobel qui est l'objet des rêves de tous les grands scientifiques et autres.
Et autour, un peu partout, des diplômes ou...
Je ne sais pas, il y a une cinquantaine de reconnaissances du monde entier sur les travaux de Moissan. Et avant qu'il ait le prix Nobel, puisque ces diplômes sont des années 90, il était déjà reconnu mondialement pour ses travaux sur le fluor et sur les hautes températures. Et alors on voit des diplômes d'Europe, mais d'Autriche, Belgique, Grande-Bretagne, Espagne, mais aussi du Chili, de Russie, des États-Unis. Le monde entier a honoré Moisson, a reconnu Moisson comme un illustre savant, mais avant même son prix Nobel. Donc ce n'est pas son prix Nobel qui l'a fait connaître, mais ce sont ses travaux.
Et alors aujourd'hui, quelles sont ses applications? Où est-ce qu'on retrouve les travaux d'Henri Moisson?
Eh bien,
il y a deux domaines,
puisqu'il a fait deux grandes sortes de travaux de recherche. Il y a le fluor d'une part, et il y a les hautes températures, et je vous en parlerai après. Alors, le fluor, ben on va aller voir sur les panneaux qui décrivent les applications modernes. Et vous allez voir qu'elles sont nombreuses, mais vous savez, elles sont tous les jours dans la vie quotidienne. On en profite, nous tous, tous les jours. Regardez les quelques 600 000 composés contenant du fluor qui ont pu être préparés depuis la fameuse découverte de Moisson. Alors, on a des dérivés organiques, des polymères, le téflon par exemple, qui sont très utilisés parce qu'ils ont une résistance formidable à la corrosion et à la température. L'uranium-235 ne peut être séparé de l'uranium-238 et être utilisé dans le nucléaire que parce qu'il existe le fluor, et l'hexafluorure d'uranium permet de séparer les deux isotopes. Vous avez en imagerie médicale, avec le glucose marqué à l'isotope fluor 18, qui est utilisé en imagerie médicale, notamment dans ce qu'on appelle aujourd'hui la tomographie par émission de positons, et qui permet de faire des détections de cancers avec une précision absolument incroyable. Vous avez l'agriculture qui utilise de nombreux produits, et surtout la thérapeutique. On a développé de très nombreux corps contenant des atomes de fluor, et tout ceci n'est que la continuation du travail de Moisson.
Alors qu'au départ, ce fameux fluor, l'acide fluorhydrique, était quand même quelque chose d'assez corrosif.
Ah ben, l'acide fluorhydrique,
c'est
quelque chose de terrible. On peut se demander même si les gens qui ont travaillé là-dessus n'ont pas connu des conséquences un petit peu douloureuses, comme les gens qui ont travaillé sur la radioactivité, parce que c'est vraiment quelque chose de très agressif. Respirer du fluor ou de l'acide fluorhydrique, c'est évidemment d'une toxicité suprême.
Il faut quand même préciser, parce que le fluor qui est combiné dans une molécule chimique n'est plus agressif. Hein. Il donne des caractéristiques particulières à la molécule, mais il n'a plus cette agressivité. Hein, je crois il faut pas avoir peur du fluor en tant que tel. Il faut avoir peur du fluor quand c'est du fluor gazeux pur ou de l'acide fluorique, mais tous les autres dérivés du fluor sont absolument anodins et ils sont même utilisés, bien sûr, ne serait-ce que par le fluorure de sodium ou de calcium pour la prévention de la carie dentaire, n'est-ce pas ? Tous les enfants reçoivent dans leur tendre jeunesse, n'est-ce pas ? L'élément fluor est fondamental, mais il est combiné de manière à ne pas être toxique et pas être dangereux, bien sûr.
Oui.
Et sur les autres travaux d'Henri Moisson?
Sur les hautes températures, eh bien, il y a eu un tas de développements, à la fois des développements à partir du four à arc, et puis l'électrométallurgie, les grands fours qui ont été utilisés par d'autres techniques que celles de Moisson, et qui ont ouvert des tas de domaines pour préparer des nouveaux corps, comme le corindon, la poudre de diamant artificiel, etc. Parce que finalement, on y est arrivé. Hein. Moisson, on a mis quelques doutes sur le fait qu'il y soit arrivé, mais en tout cas, c'est bien lui qui a ouvert la voie.
Eh bien, merci pour ce tour d'horizon concernant Henri Moisson, et puis à bientôt peut-être pour une nouvelle émission. Merci beaucoup. C'est la fin de cet habit vert original sur Henri Moisson, puisqu'une fois n'est pas coutume, nous avons dressé le portrait d'un académicien à travers une exposition qui lui était consacrée. Retrouvez plus de détails sur la vie d'Henri Moisson sur le site de l'Académie de pharmacie, ainsi que sur le site internet de la ville de Meaux, ville d'où il était originaire. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour de nouvelles rencontres.